Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, je suis avec Monsieur Bojas Monorite pour l'émission, la première émission de l'année 2017 sur l'Europe. Alors, c'est une année tout à fait intéressante pour l'Europe puisque, eh bien, c'est l'anniversaire, ce sont les 60 ans de l'Europe, justement. Et peut-être, 60 ans, c'est beaucoup, c'est un anniversaire de vieux, si j'ose dire. Et justement, c'est l'occasion de se poser des questions sur l'intérêt de l'Europe. Et bon, d'abord, de souhaiter bienvenue en Europe et puis longue vie à l'Europe, c'est-à-dire 60 ans, mais qu'on ouvre pour les 60 ans futurs, si j'ose dire. Et en tout cas... Le moment de se poser des questions sur l'avenir de l'Europe, puisqu'on voit ici et là des remontées nationalistes, mais on voit aussi que dans un monde qui de plus en plus est mondialisé, qui de plus en plus est ouvert, le repli nationaliste, c'est en gros une vue suicidaire. Et pour tenir notre place dans l'OTAN, pour tenir sa place dans le G7, pour tenir sa place dans les assemblées mondiales, peut-être qu'il faut quand même une Europe. Alors, donc via l'Europe quand même.
Oui, bonjour Raymond, bonjour chers auditeurs. Évidemment, en ce début d'année, on se souhaite réciproquement plein de bonnes choses. Et s'agissant de l'Europe, qui est
longue vie, mais si, qu'elle répond si, aux aspirations populaires.
Si dénigrée à l'heure actuelle, qu'on souhaite que vraiment il y ait une prise de conscience pour se rendre compte des véritables enjeux et que l'on ne tombe pas dans la caricature, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Alors vous l'avez souligné, c'est le 60e anniversaire de la signature du traité de Rome. Le traité de Rome, c'est quand même l'un des fondements de ce qui a fait l'unité de notre continent, à la suite évidemment du traité du charbon et de l'acier, mais il faut quand même se souvenir qu'au lendemain de la dernière guerre mondiale, qui a été une catastrophe épouvantable, rappelons-le, et on le rappelle peut-être pas suffisamment dans le contexte actuel, que c'était quelque chose de très difficile à mettre en place et qui se voulait être un remède, en tout cas une reconstruction dans la paix et une réconciliation entre des anciens belligérants. Donc il faut essayer de se remettre dans le contexte de l'époque. C'était pas du tout évident de construire l'Europe. Et ce qu'il faudrait, et ne pas oublier les leçons du passé, c'est que dans les années 30, il y avait eu aussi des approches en disant qu'il faudrait essayer à la suite du premier conflit mondial. Et alors il y a une grande crise économique, on a dit qu'il faudrait peut-être quand même essayer de faire quelque chose de plus positif que toujours ces perpétuels drames. Eh bien, on l'oublie, et ça a amené à des courants nationalistes, à des replis sur soi, à ce que l'on a appelé, ce qui s'est appelé le national-socialisme en Allemagne, et à tout ce qui s'est passé. Et on ne le rappelle peut-être pas suffisamment à chaque fois, lorsque actuellement, précisément, dans le cadre d'une nouvelle crise économique, on aurait l'impression que les leçons du passé sont oubliées.
Faut se replier sur soi.
Et on se replie sur soi.
C'est peut-être, enfin, je crois quand même que. Il n'y a pas de leçon du passé, et surtout de cette période, parce qu'à cette époque, on était vraiment des nations, et il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la communication qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas une économie aussi mondialisée. Et maintenant, face à des grands ensembles que sont les États-Unis, le Canada, la Russie, la Chine, l'Inde, je crois que... S'il n'y a pas d'Europe, il y a l'inexistence totale. Et on voit actuellement quand même des grands ensembles se constituer. En Afrique de l'Ouest, mais maintenant, il y a des États d'Afrique de l'Ouest qui s'entendent. On a les États du cône sud de l'Amérique latine, en Amérique latine. C'est-à-dire qu'en fait, partout, on a essayé de se regrouper pour pouvoir tenir. Donc là, je crois que c'est peut-être important de se dire qu'il y a... Ne soyons pas idylliques, ne soyons pas bisounours, mais l'intérêt bien compris des Européens, c'est tout de même de rester ensemble. Alors peut-être qu'il y a, de la part de nos hommes politiques européens, ou de nos hommes politiques, parce que finalement l'Europe, ça n'est pas elle qui prend les décisions, ce sont souvent nos chefs de gouvernement qui se réunissent et qui prennent les décisions entre eux. Et ça ne sont pas des décisions européennes d'une émanation européenne. Et là, je crois qu'il y a là quelque chose qui est à revoir, une Europe qui tienne compte à la fois des aspirations nationales, parce qu'on fait souvent miroiter que Bruxelles, or ça n'est jamais Bruxelles, c'est à chaque fois l'ensemble des ministres qui, en ce qui concerne la santé ou en ce qui concerne je ne sais pas quoi. Et donc, je crois qu'il est important de se dire que souvent, lorsqu'il y a des décisions européennes, elles ne sont pas forcément prises. Chacun met des bâtons dans les roues en essayant de tirer le plus possible pour lui. Et là, on vient de voir pour la Grande-Bretagne qui se trouve bien embêtée quand même maintenant qu'elle veut sortir et qui fait tout pour ne pas en sortir. Alors moi, j'aimerais bien qu'on parle du Brexit et ce que ça veut dire justement par rapport à l'Europe.
Oui, je crois que vous avez très bien fait de souligner le contexte actuel. Lorsque je me référais au passé, c'était simplement pour souligner la nécessité précisément d'être unis sur notre continent. Parce que l'histoire a quand même montré, même si elle ne se répète pas, et on ne se répète jamais de la même manière, que c'est la désunion et le repli sur soi qui créent le problème, avec toutes les dérives que l'on peut imaginer. Et donc, quand on voit les courants actuels très nationalistes qui prône un repli sur soi, il y a véritablement un danger. Et d'ailleurs, nos États en ordre dispersé ne sont plus rien, même l'Allemagne, dans le contexte mondial actuel. Et c'est en revanche, si l'Europe est unie, à commencer par la zone euro, elle se trouve dans une position égale à des grands ensembles comme les États-Unis, la Chine et voire d'autres qui se manifestent sur le plan mondial. Donc l'Europe actuellement est véritablement une puissance en devenir, elle est la première puissance commerciale du monde, et il y a un paradoxe, parce que parallèlement, elle est un nain politique. Et alors quand on voit, comme vous l'avez souligné, le contexte avec le Brexit, avec maintenant aussi aux États-Unis la situation présidentielle que l'on connaît, on est amené à se poser un certain nombre de questions, et plus que jamais, nous pensons qu'au lieu de critiquer l'Europe, et d'ailleurs, on la critique, comme vous l'avez aussi souligné il y a un instant, de manière fausse, erronée, puisque les décisions qui sont généralement critiquées, ce sont les décisions de nos États, de nos gouvernements, qui se réunissent, c'est vrai, à Bruxelles, dans le cadre bruxellois de l'Europe, mais ce sont eux qui décident, c'est pas une entité séparée, des fonctionnaires, une bureaucratie irresponsable, etc. Pas du tout. On l'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises à cette antenne, il y a des règles, ces règles, s'il y a effectivement une entité qui s'appelle la Commission européenne qui représente dans les traités l'intérêt commun, l'intérêt général, elle fait des propositions et ces propositions sont soumises aux États à travers le Conseil
et au Parlement
européen qui doit donner également son accord, en tout cas pour la majorité des décisions à prendre. Donc il y a quand même un contexte institutionnel qu'il faut rappeler, même si tout le monde ne peut pas être nécessairement au courant de chaque détail. Mais quand on voit, vous parliez du Brexit, il y a du côté britannique, maintenant que les choses sont lancées à la suite de ce référendum, ils s'aperçoivent que ce n'est pas aussi simple de vouloir, je caricature, mais le beurre et l'argent du beurre. Madame Thatcher disait autrefois « I want my money back », je veux mon argent en retour. La contribution au budget commun européen, évidemment tous les États, et Madame Thatcher à l'époque la première, voulaient en récupérer un maximum. Et c'est d'ailleurs là un autre sujet qu'on pourrait aborder ultérieurement, qui est l'indépendance du budget européen à travers des ressources propres qui lui serait véritablement propre. Bon, mais là, c'est un problème peut-être plus technique. Mais par rapport à la situation britannique actuelle, il est symptomatique que, par exemple, l'ambassadeur britannique à Bruxelles, qui représente le Royaume-Uni au niveau des institutions européennes, donc l'ambassadeur représentant permanent du Royaume-Uni, a donné sa démission d'une manière très violente, en quelque sorte, en critiquant, ne se cachant pas, de critiquer les positions des politiques britanniques qui n'ont rien compris à l'Europe. Et lui, qui est le mieux placé, le mieux expérimenté dans ce domaine, a souligné tout ce qui n'allait pas dans la situation actuelle.
Alors, ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que la monnaie anglaise a dégringolé de 15 à 20% aussitôt après le Brexit. Et que, justement, en Angleterre... alors, pour nous, c'est très intéressant, d'ailleurs, quand on est français. Si on va en Angleterre, eh bien, le change est beaucoup plus favorable. Mais pour les Anglais, c'est pas du tout la même chose. Et je crois que là aussi, lorsqu'on dit, ah ben, quand on sera tout seul chez nous, bon, ben, je me dis, bon, ben voilà, abandonnons l'euro et revenons au franc. Eh bien, on va voir notre monnaie française amputée de 30%. Je pense que... là aussi, il y a peut-être une réflexion à mener, parce que en fait, la construction commune amortit les chocs économiques. Et si chacun retourne à devenir son petit État de 65 millions ou de 15 millions, quand il s'agit d'États beaucoup plus petits, je crois que la situation serait plus difficile.
Oui, tout à fait. Donc, et là aussi, les Britanniques se rendent compte, en tout cas ceux qui sont vraiment conscients et qui analysent la situation, ils se rendent compte non seulement de la difficulté de ce qui les attend, mais ils ont beaucoup plus à perdre que le reste du continent. Alors, les choses ne vont pas se passer très facilement parce que Mme May s'est engagée à faire valoir l'article 50 qui est le bouton d'amorçage de la sortie d'un État de l'Union européenne. Ça devrait se passer au mois de mars. Entre-temps, il y a la Haute Cour de justice britannique qui s'est prononcé en disant « mais il y a eu un référendum, certes, mais le Parlement britannique ne doit pas être mis à l'écart, donc il faut avoir l'aval du Parlement ». Or, ce Parlement, lui, n'était pas du tout favorable à la sortie du Royaume-Uni. Il y a le problème de l'Écosse qui, elle, dit « mais nous, on n'est pas du tout liés à cela. On veut, si le Royaume-Uni veut s'en aller, ben nous, on va demander notre indépendance et notre rattachement à l'Europe ». Il y a, alors, Mme May, qui est la Première ministre, a introduit un recours devant la Cour suprême britannique pour essayer... d'y voir plus clair sur le plan juridique, parce que les choses ne sont pas évidentes dans ce cadre. Et le côté cocasse de l'opération, c'est que pour l'instant, le Royaume-Uni fait toujours partie de l'Union européenne, et selon les traités, c'est la Cour de justice européenne qui, en dernier ressort, pourrait se prononcer. Alors c'est assez amusant d'imaginer une situation dans laquelle des juges européens se permettraient de dire au Royaume-Uni ce qu'il conviendrait de faire dans les procédures à suivre vers la sortie du Royaume-Uni.
Et c'est intéressant parce que ça montre une des difficultés contemporaines qui fait que les populations souhaitent plus de démocratie participative, parce que souvent, on a quand même des personnes qui réfléchissent à des situations, qui ont accès à une information qui arrive directement par les réseaux, laquelle information, quelquefois, est fausse, puisqu'on a aussi ce qu'on appelle la post-vérité, donc des informations fausses. Et donc, on voit l'imbroglio dans lequel on se trouve, puisque d'un côté, les populations demandent plus de démocratie, alors que... les autorités politiques se replient derrière des réalités juridiques où, donc là, on voit aussi la complexité des affaires.
Alors, ceci étant, tout n'est pas magnifique au niveau européen. Et il faudrait absolument réformer l'Europe, et c'est un vœu qu'on devrait se faire pour l'année à venir. Il y a de nombreuses élections qui vont intervenir cette année. Les premières, ce sera aux Pays-Bas, suivies par la France, ensuite la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Du côté italien, on ne sait pas s'il n'y aura pas à nouveau un processus législatif enclenché à la suite du départ de M. Renzi. On verra tout ça. Mais donc, il y a toute une procédure, des procédures en route qui vont se dérouler sur un plan politique national. Par rapport au contexte international que l'on sait, l'arrivée de M. Trump...
De M. Poutine en
embuscade. De M. Poutine qui est du côté de la Russie. On a du côté turc, du côté syrien, beaucoup d'inquiétudes. Donc il y a véritablement beaucoup de choses qui peuvent se passer. Le Brexit... On vient d'en parler, mais ça peut être aussi une chance pour l'Europe de se relancer, de rebondir, et sans avoir, en travers de la route en quelque sorte, les réticences britanniques qui n'ont jamais été cachés sur un avenir plus politique européen, parce que la Grande-Bretagne n'en voulait pas. Elle voulait tout sur le plan commercial, mais rien de plus. Et on s'est rendu, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas s'arrêter à un statu quo. D'ailleurs, dans la zone euro, une monnaie unique sans État, il faut simplement garder ça à l'esprit, ce n'est pas viable à long terme. Donc, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, il n'y a rien d'autre à faire que de consolider l'Europe. Et là
ou
aussi,
de
l'Europe,
dire goodbye l'Europe.
Goodbye Europe, voilà, mais à ce moment-là, avec les risques que l'on peut imaginer, et c'est le retour à l'avant-guerre que l'on connaît, donc que j'ai souligné tout à l'heure, même si ça ne fait pas plaisir de l'évoquer. J'ai lu dans un certain nombre de papiers que on a actuellement des nouveaux Chamberlain et des Daladier en puissance, et il faut absolument éviter cette situation et au contraire relancer l'Europe absolument. C'est la solution, l'Europe est la solution et n'est pas le problème.
En tout cas, c'est intéressant parce que de fait, c'est ce que disent les jeunes, puisque ce sont les 60 ans du traité de Rome, mais ce sont les 30 ans d'Erasmus. Et là, on voit aussi qu'il y a des millions d'Européens qui sont allés ici et là, et on perçoit que par ce biais, bien un grand nombre de jeunes Européens finalement sont allés, qui en Roumanie ont des liens, qui avec la Pologne, qui avec le Royaume-Uni, qui avec l'Italie, enfin, il y a un brassage et il y a une véritable communauté européenne.
Pour les jeunes, l'Europe est une évidence. Et Erasmus, le programme Erasmus est un succès considérable. On en a parlé à l'une ou l'autre occasion dans cette émission l'année dernière. Mais là, il s'agit des 30 ans de ce programme. Et il y a eu 5 millions de personnes qui se sont déplacés d'un pays à un autre dans le cadre de ce programme. Et il y en a 3 millions en tant qu'étudiants et le reste au niveau plutôt professionnel.
Oui,
c'est un succès extraordinaire.
Voilà, professionnellement aussi.
Et là aussi, on doit garder ça en tête parce que un tel programme, c'est véritablement une dimension très concrète, en plus avec la jeunesse qui est là en avant. Et donc ce programme n'est pas du tout à minimiser et fait partie des succès que l'on devrait mettre en avant pour s'en souvenir et bien se rendre compte que l'Europe a aussi des avantages et pas uniquement des inconvénients.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de reprendre.
Frotter au sapin de Vancouver pour sentir bon la citronnelle, penser à placer un arbre à mouchoir pas trop loin du saule pleureur, regarder pousser le séquoia pour traverser les siècles, tenter la greffe d'un olivier sur un épicéa de Serbie, penser à planter un petit bouleau pour lutter contre le chômage, penser à planter un petit bouleau pour lutter contre le chômage, pour lutter contre le chômage.
Eh bien, nous sommes toujours dans l'émission Bienvenue en Europe. Et effectivement, si la greffe d'un arbre sur un autre, d'un olivier sur un épicéa ne marche pas, comme dit la chanson, ou bien c'est quelque chose d'impossible à faire, il s'agit bien quand même d'avoir une forêt commune et puis de vivre en commun. Et alors, à cet égard, je voudrais rappeler le... Finalement, puisque des échéances politiques sont importantes, que le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France évoque l'Europe. Et bon, eh bien, je vais pas faire de commentaires, simplement vous lire. C'est à la page 87 du document, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. En ce qui concerne l'Europe, le Les évêques nous disent « Nous sommes bien conscients que la France à elle seule ne peut solutionner ces situations dramatiques. » Ils viennent de parler des problèmes de réfugiés et de migration. « Nous ne pouvons contribuer à les soulager, ces problèmes de migrants, que dans le cadre de la solidarité européenne. D'une certaine façon, notre vieille Europe joue son avenir dans la manière dont elle réagit. Soit elle nourrit l'illusion de pouvoir barrer la route à toutes les misères pour protéger sa relative prospérité, soit elle s'engage courageusement dans les politiques d'accueil. » Et à propos de cet accueil, nos évêques rappellent qu'il serait une illusion, je cite, « s'il ne s'accompagnait pas de véritables programmes de soutien dans les pays d'origine des migrations, de soutien économique et de soutien politique pour lutter contre les misères endémiques et les procédés antidémocratiques de certains gouvernements. » Parce que c'est en fait ça qui alimente les flux migratoires. « Cette lutte doit suivre les engagements internationaux pris pour l'aide au développement et peut conduire à des interventions dans différents pays. Mais le projet européen, ne peut se poursuivre ni se développer sans une véritable adhésion des peuples d'Europe. » Donc là, on sent bien qu'il y a une certaine tristesse vis-à-vis de l'Europe, un certain déni. Cette adhésion, nous disent les évêques, suppose de respecter davantage le fait historique et culturel des nations qui composent le continent et, ajoute-t-il, une véritable pratique de la subsidiarité telle qu'elle est inscrite dans les textes fondateurs serait une nouvelle chance pour l'Europe. Et à cet égard, lorsque dans nos médias, on critique la politique de Mme Merkel, par exemple, sur les migrants, eh bien, des responsables politiques allemands m'ont dit un jour, « Mais Madame, la subsidiarité fait que cette question des migrants, elle ne concerne pas l'Europe, ça fait partie de ce qui est décidé par les États. » C'est-à-dire que lorsque nous avons quelques ressentiments vis-à-vis des politiques migratoires, eh bien, il faut savoir que effectivement, il y a une frontière commune, les frontières de Schengen, mais que la politique migratoire est du ressort des États. La politique migratoire française est du ressort de la France. Calais, ça ressort de la France, c'est pas du tout ni de Bruxelles, ni de je ne sais quoi. Et la politique de Mme Merkel, eh bien, elle est décidée par le gouvernement allemand. Je crois que c'est peut-être intéressant de savoir que cette subsidiarité, cette volonté de ne pas confier à l'Europe les problèmes qui se posent au continent, fait que nous sommes démunis et que chacun se retrouve justement très démuni. Alors, nos évêques nous disent approfondir, tenir compte du fait historique et culturel des nations qui composent le continent, et ça, nous en sommes bien d'accord, et ça fait d'ailleurs partie des textes fondamentaux et basiques des traités européens, mais en plus, que la vraie chance serait de prendre conscience de ces problèmes. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que les autorités européennes ont mis sur pied, justement, le dispositif Frontex, ont mis sur pied une politique commune qui a beaucoup de mal à accoucher parce qu'elle a été prise un peu tardivement. Et à cet égard, alors ça c'était responsables religieux, mais en ce qui concerne les vœux du pape François au corps diplomatique, voilà ce que je me permets de vous lire, chers auditeurs. L'Europe entière est en train de traverser un moment décisif de son histoire, où elle est appelée à retrouver son identité. Ceci exige qu'elle recouvre ses propres racines afin de pouvoir modeler son avenir face aux poussées qui désagrègent, il est toujours plus urgent de mettre à jour l'idée d'Europe pour faire naître un nouvel humanisme basé sur la capacité d'intégrer, de dialoguer, de générer, qui a rendu grand celui qu'on appelle le vieux continent. Le processus d'unification européenne, commencé après le second conflit mondial, a été et continue d'être une occasion unique de stabilité, de paix et de solidarité entre les peuples. Je ne peux que rappeler ici l'intérêt et la préoccupation du Saint-Siège pour l'Europe et pour son avenir, ayant conscience que les valeurs sur lesquelles ce projet, dont c'est le 60e anniversaire cette année, tire son origine et se fonde. Ces valeurs sont communes à tout le continent et franchissent les frontières même de l'Union européenne. Construire la paix, cela signifie œuvrer activement pour la construction d'un certain nombre de choses, la sauvegarde de la création, etc., l'accord de Paris sur le climat, mais aussi œuvrer pour l'Union européenne. Je pense que c'est tout à fait intéressant de voir aussi le point de vue aussi extérieur qu'est celui du pape ou celui de nos évêques.
Non, je trouve que ce discours, cette prise de position est remarquable. Elle résume tout à fait ce qu'il conviendrait de faire, c'est-à-dire de se retrouver d'une manière à la fois raisonnable, parce qu'il s'agit de la paix, mais surtout de la solidarité entre les peuples européens. Et à l'heure actuelle, il y a plutôt une tendance à se...
Sauf qu'il peut général, chacun pour soi.
Chacun pour soi, et qui est absolument néfaste, et qui n'est certainement pas la bonne solution. Donc il faut absolument se baser sur cette prise de position qui indique tout à fait le chemin à suivre.
Les ressources, la vertu active, dit le pape.
La vertu active, alors évidemment, il y a toujours des problèmes techniques. Souvent, quand on parle de l'Europe, on est confronté à toute une série de détails. Et ce sont les petits détails qui, évidemment, créent souvent des difficultés. Mais il faut toujours avoir en tête une vision globale, une vision à long terme. Et cette vision, c'est une construction de notre continent qui soit vers la paix et la solidarité. Et c'est à travers cela que l'on peut rebondir, se relancer pour développer une croissance qui, s'il y a du chacun pour soi, eh bien, elle ne pourra jamais se produire. Donc il faut absolument se mettre dans cette position qui nous est favorable et qui devrait être du bon sens et non pas se retrouver sur des identités peureuses au niveau de chacun de nos États. Donc on a, avec cette nouvelle année, une chance qui se présente à nous de pouvoir rebondir. Les Britanniques veulent sortir, eh bien, on ne va pas les empêcher que l'on crée des accords qui seront très complexes à mettre sur pied, pourquoi pas, mais c'est au contraire une occasion de refaire, d'approfondir et de recréer cette solidarité qui a fait défaut ces derniers temps. Donc il faut absolument voir cette nouvelle année comme une opportunité à saisir.
Donc le rôle de la jeunesse, c'est le sens d'Erasmus, et tout le monde se félicite de sa réussite. Le rôle de cet Erasmus, c'est pas simplement des étudiants, mais ce sont aussi des jeunes professionnels, des législations européennes qui établissent la liberté de circulation et de s'implanter, et on voit aussi combien, par exemple, nos hôpitaux et notre système de santé tournent à l'aide de médecins qui viennent de Roumanie, d'Europe de l'Est. On voit aussi du tourisme, qui n'est pas du tout du tourisme pour aller voir la couleur bleue de la Méditerranée, mais pour aller se faire soigner les dents dans tel ou tel pays. Donc, on voit qu'il y a aussi tout un aspect, des aspects positifs dans notre vie quotidienne et que la pacification, la solidarité, construire un tissu social solidaire, c'est nécessaire pour vivre ensemble dans une société multiculturelle, pour se construire une identité nationale, mais aussi une identité européenne pour prendre sa place dans le monde de demain. Voilà ce que je pourrais dire. C'est bon ? Vous êtes d'accord ? Eh bien voilà.
Tout à fait.
Bon anniversaire l'Europe, et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous, au revoir.